Ésaïe, chapitre 58, les versets 7 à 10. Ésaïe 58, versets 7 à 10. Au nom de Jésus. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera. Et le Seigneur en personne sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui est dans la peine, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Amen. Dans la bouche des historiens de religion, l'histoire de religion, ils ont toujours mis dans le même sac le judaïsme et le christianisme. C'est pourquoi nous entendons toujours plus souvent le terme « la religion judéo-chrétienne ». On peut être d'accord ou pas avec cette appellation, mais toutefois, si nous regardons de près la confession de foi de base du judaïsme, voici ce qui est dit en résumé dans le schéma Israël. Écoute, ô Israël. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme disait Jésus, voilà les deux commandements qui résument la loi tout entière avec ces deux commandements. Écoutez bien cette parole, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain. Si nous essayons de mettre en figure géométrique ces deux commandements, eh bien ce n'est autre que la croix. Le premier commandement, la ligne verticale, tu aimeras ton Dieu, toi et Dieu, et tu aimeras ton prochain, l'horizontale. C'est la loi qui s'accomplit à la croix. Le texte que nous avons aujourd'hui reflète bien cet aspect de la croix dans ces deux commandements. Ésaïe appelle Israël à vivre pleinement sa foi en Yahvé dans le concret de la vie de tous les jours. Pas en abstrait, pas en philosophie, pas en imaginant des choses, dans le concret de la vie de tous les jours. Ce peuple croyait qu'il suffisait de remplir toutes les exigences des lois religieuses pour avoir la faveur de Dieu. Ce peuple croyait tromper facilement Dieu par les odeurs de leurs sacrifices, les chants de leur culte lors des différentes fêtes religieuses, et que peut-être par la suite Dieu serait content et il va nous bénir. Ça, c'était la croyance des Juifs à l'époque. Mais écoutez ce que Dieu leur a répondu. Et les mots de l'Éternel sont durs. Amos chapitre 5, verset 21. Et ça nous concerne à nous aussi. Écoutez bien ce que dit l'Éternel. « Je déteste vos fêtes. Je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles, ni les sacrifices complets que vous me présentez. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de paix. Éloignez de moi les vacarmes de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes, dit l'Éternel. » C'est dur d'entendre ces mots. Il est étonnant d'entendre ces reproches de la part de l'Éternel, lui qui pourtant a institué tous ces rites, le temple et tous ces sacrifices, c'est lui qui a institué tout cela. Comment se fait-il que lui il dit « J'en ai marre d'entendre vos cantiques, je ne veux plus sentir vos sacrifices, les offrandes qui montaient à l'Éternel à l'époque ?» Comme s'il voulait vomir quand il sentait tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans la grande famille de la foi chrétienne, on a toujours senti comme quoi il y avait deux blocs dans toutes les dénominations confondues. D'un côté, il y a les chrétiens et il y a ceux qui se disent « La priorité de l'action de l'Église, c'est de propager la parole vivante pour le salut de l'homme. » Alors les œuvres caritatives, ce n'est pas à l'Église de le faire. Il y a les ISBL qui font ça. L'Église n'est pas faite pour ça. Cela est du domaine du social. Tous les efforts, alors, ont été focalisés rien que dans l'évangélisation pure et dure. Ça, c'est un groupe de chrétiens. Peu importe la dénomination, que tu sois calviniste, ou luthérien, ou baptiste, ou méthodiste, évangélique, c'est pas ça, c'est un bloc. Un deuxième bloc, de l'autre côté, il y a ceux qui prônent que la vraie religion, comme dit l'Évangile, c'est le fait de prendre soin des plus faibles dans la société. Car Jésus lui-même a dit dans Matthieu, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Du coup, nous pourrions rencontrer des individus qui disent « Écoutez, monsieur le pasteur, moi je ne vais plus au temple comme vous autres. Je n'ai pas besoin de tous vos mascarades liturgiques, vos rituels. » J'en ai entendu pas mal de gens qui disaient ça. « Pour moi, l'essentiel, je fais du bien autour de moi. Je suis impliqué dans plusieurs œuvres sociales de la société, plus que vous autres, les chrétiens, alors que demandez de plus, monsieur le pasteur. » Voilà les deux. Et nous sommes balancés entre les deux. Voilà les deux blocs qui s'affrontent dans leur conception de ce qu'est la foi chrétienne. Alors, comment trancher? Mais avant de trancher entre les deux, revenons d'abord à l'historique de la construction du temple au temps de Salomon. Pourquoi Dieu a demandé cela? Posons-nous la question. Pourquoi le temple a été construit d'abord? Là, il faut avoir un petit bagage biblique, on va dire. Il faut avoir lu le texte. Dieu n'a jamais demandé qu'on lui fasse un édifice religieux. Soyons clairs. Dieu n'a jamais demandé « Construisez pour moi un temple ». C'était le souhait du roi David, juste pour manifester son dévouement à Dieu. Il se disait « Moi, j'habite dans un château de luxe. Or, l'Arche de l'Alliance, il est sous une tente. Il faudrait que je construise un temple pour Dieu. » Et il faut savoir qu'à l'époque, toutes les nations avaient tous un temple pour leur Dieu, D-I-E-U-X. À vrai dire, la conception d'un temple, c'est une idée païenne, mais pas juive. Cette idée païenne qu'Israël a récupérée car ils avaient envie de ressembler à leurs voisins. C'était toujours le problème des Israélites. Ils voulaient ressembler à ses voisins. Leurs voisins avaient un roi. Ah, eux aussi, ils en veulent un. C'est ce qu'il disait à Samuel. Oh, mais on veut un roi. Et Samuel a dit, ça ne vous suffit pas d'avoir l'Éternel comme roi? Non, on veut être comme notre voisin. Bon, Dieu a dit, ok. Les autres avaient des temples dédiés à leur Dieu. Et aussi, ils en veulent un. Donc, rappelez-vous, l'Éternel avait refusé la demande de David. David a dit, j'aimerais construire un temple. Et Nathan, qui était vraiment enthousiaste dans le projet, ça semble un bon projet. Mais ce projet ne vient pas de Dieu, même si c'est religieux. Vous imaginez? Même si c'est un projet religieux, louable et tout, ça ne venait pas de Dieu, mais juste du cœur de David, qui voulait manifester son amour pour Dieu. C'est pas mauvais, mais il faut bien le faire clair. L'attente de la rencontre suffisait à l'Éternel. Mais ce Dieu qui est si compréhensible, il a tout de même accepté l'idée, à condition que ce sera son fils Salomon qui le fera à sa place, mais pas David. Alors, on continue l'histoire. Une fois que Salomon a terminé la construction de la merveilleuse arche architecturale, qui faisait partie des sept merveilles du monde, il faut le dire quand même, écoutons une partie de la prière de dédicace faite par Salomon lors de l'inauguration du temple. Voici la prière de Salomon. « Que tes yeux soient, nuit et jour, ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront ce lieu, exauce au lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. » Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, écoute, ô Éternel. Voilà la prière de Salomon. Nous n'aurons pas assez de temps pour décortiquer cette prière de Salomon, mais nous pouvons voir bien distinctement que dans cette prière, l'usage de ce temple n'était pas limité uniquement qu'aux choses rituelles. Mais il se sert aussi de lieu de refuge pour les faibles. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit ? Les étrangers, les gens qui auront faim, les personnes qui seront persécutées, ils chercheront refuge là. Un lieu de refuge pour les faibles, un lieu de secours face à la famine, un lieu de secours face aux catastrophes humanitaires. Le temple aussi a été fait pour ça. J'ai fait ce détour assez long pour vous dire que le temple est un lieu de prière et aussi un lieu de refuge pour ceux qui ont été affaiblis par la vie. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Jésus avait, rappelez-vous, chassé les marchands du temple. Ce n'est pas à cause de l'argent. Non, mais on a détourné l'usage du temple pour voler le peuple de Dieu. De ce fait, où se trouve la place de l'Église aujourd'hui alors au sein de la société? C'est là ma question. Cela semble une simple question, mais c'est d'actualité aujourd'hui. Il est difficile de trouver l'équilibre entre les deux usages du temple. Déjà dans l'Ancien Testament, par exemple, et la première communauté chrétienne au temps des apôtres. Au temps des apôtres, il y avait le service de la diaconie pour prendre soin des veuves et des personnes issues d'une couche défavorisée. Et à un certain moment, l'Église était tellement focalisée dans les œuvres caritatives qu'elle a oublié sa vraie mission. Alors tout à coup, les apôtres se sont dit, il faut recadrer la situation, car ils ont failli oublier leur vrai rôle, enseigner la parole et administrer le sacrement en premier, et vient ensuite l'œuvre diaconale. Et c'est là le problème, chers amis. Si l'Église oublie la vraie identité qu'elle est, nous pourrions négliger sa mission principale. Alors nous pourrions nous dévier à une autre mission qui n'est pas mauvaise, je ne dis pas que c'est mauvais, mais qui n'est que supplémentaire à notre mission. Alors vous allez peut-être me dire, vous vous contredisez par rapport au texte, pasteur. Ce texte que nous avons dans Ésaïe interpelle celui et celle qui se dit qu'il croit en Dieu, ne devrait pas rester insensible à la souffrance autour de lui, certes. Mais en se souvenant aussi que nous n'éradiquerons jamais la misère du monde. N'oublions pas cela. Jamais la misère sera éradiquée. Même Jésus l'a dit dans Jean chapitre 12, verset 8. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas pour toujours. Rappelez-vous de cette phrase. Cette phrase était la conclusion que Jésus avait prononcée à l'encontre de Judas Iscariote. Judas Iscariote qui avait reproché Marie d'avoir versé un parfum très cher sur les pieds de Jésus. Mais c'est quoi ce gâchis? C'était une fausse excuse de Judas, avançant un argument soi-disant, il fallait vendre ce parfum pour prendre soin des pauvres. Et la réponse de Jésus était cinglante. Les pauvres seront toujours avec vous. Pourquoi? Les vraies bonnes œuvres, chers frères et sœurs, devaient être les fruits de l'esprit. Et non juste pour montrer au monde qu'il est ou elle est charitable. Cet acte que Judas avait fait, c'était juste pour justifier ce que lui, il avait en tête. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui fait mal dans cette situation quand on parle d'œuvres caritatives, ça devient un business. La pauvreté devient un moyen d'enrichissement aujourd'hui. Vous regardez, est-ce que vous n'imaginez pas ça aujourd'hui? La pauvreté fait vivre certaines personnes. Donc, ce n'est pas la charité qui est le plus important. La charité vient après. Mais pourquoi tu le fais? Dans quel but tu le fais? C'est là que se pose le problème. C'est là que l'Église doit se lever. C'est là que l'Église doit se démarquer. Il y a tellement d'ASBL aujourd'hui qu'on ne sait plus pourquoi ils sont là. Pour avoir des financements, pour avoir des subsides. Mais pour qui? Pour faire quoi? Pour avancer qui? Et même nos ASBL au sein de l'Église, on doit toujours réfléchir sur la mission que Dieu a donnée à cela. Parfois on agit comme une entreprise, on agit comme une industrie, on est une Église avant toute chose. L'Église des pauvres, l'Église des faibles. Telle est la mission de l'Église. Ne l'oublions jamais. À vous aussi de réfléchir. Je sais que parmi nous, nous avons pas mal de gens qui s'impliquent dans des ASBL, dans des organisations. Réfléchissez bien. Peut-être que vous dépensez d'énergie pour rien. Il faut se remettre en question. Comment tu utilises ton argent pour ce genre d'activité? Est-ce que cela a un impact vraiment là où les gens en ont besoin? Que le Seigneur te guide dans tes choix. Amen.